Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand un livre réveille de douloureux souvenirs, les accusations d'un journaliste contre le groupe Orpea font boule de neige. Des familles, des salariés des maisons de retraite sortent du silence et racontent à leur tour des scènes de maltraitance. Témoignage dès le début de ce journal. Nous serons aussi en Allemagne où le projet de vaccination obligatoire contre le Covid entame aujourd'hui un long parcours semé d'embûches. Premier débat au Bundestag. Au sommaire aussi, le PS, toujours divisé sur la primaire populaire à la veille du vote, l'ultra-droite en procès, un ancien militaire est jugé à Paris, et l'aventure qui s'arrête en quart de finale pour Alizé Cornet à l'Open d'Australie.
Deux invités au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, Simone Rodan-Benzaken et Dominique Régnier pour une radiographie de l'antisémitisme en France. Le gouvernement, Alexis, va convoquer le patron d'Orpea.
Dans les plus brefs délais, promet la ministre chargée de l'autonomie. L'exécutif contraint de réagir alors que sort aujourd'hui un brûlot contre le groupe privé de maisons de retraite. Le livre Les Fossoyeurs décrit de multiples défaillances, négligences et maltraitances vis-à-vis des résidents de ces EHPAD. Depuis la publication des premiers extraits, ces révélations rencontrent un écho chez certaines familles où salariés d'Orpea, une libération de la parole bienvenue selon eux. Mathilde Dehimi.
C'est une douleur qui ne s'est jamais apaisée pour Béatrice, doublée depuis hier d'un nouveau sentiment étrange.
J'ai ressenti une joie, peut-être une joie mauvaise, mais une vraie joie. Parce qu'enfin, on parlait de ce que nous avions souffert.
À la mort brutale de leur mère, elle hésite avec ses sœurs à attaquer l'Orpea de Joinville. Elle renonce craignant la puissance du groupe. C'était un chemin de croix, dit Béatrice. Les vols, la saleté et sa mère laissée à l'abandon.
J'arrivais à 11h du matin, maman errait dans les couloirs en chemise de nuit avec ses escarpins de ville, souillée jusqu'aux chevilles. Ses histoires de couches, c'était épouvantable. On ne la changeait pas assez.
Elle raconte aussi le changement constant de personnalité et la porte close de la direction.
Ça a été un cauchemar. Et de la part de la direction, c'était même pas de l'inhumain, c'était du déshumain.
Guillaume aussi espère un séisme après la sortie du livre, lui qui a travaillé 18 ans comme cuisinier dans le Puy-de-Dôme.
Le tarif à l'heure actuelle dans les EHPAD Orpea, c'est de 4,20€ par jour pour nourrir un résident. J'ai toujours refusé de rentrer dans ce qui pouvait être pour moi de la maltraitance. C'est pour ça qu'il a fallu que je me syndique et il a fallu que je me retrouve protégé, parce que sinon j'aurais été viré.
Tout le monde savait, insiste-t-il, le délégué CGT d'y avoir depuis longtemps alerter les instances de tutelle jusqu'au ministère.
De son côté, le patron d'Orpea se défend de toute négligence. Il peut y avoir quelques dysfonctionnements, mais pas de système de maltraitance. Le groupe assure que les portes de ces établissements sont ouvertes aux autorités sanitaires. L'action de l'entreprise a perdu hier 20% en bourse. C'est un coup dur pour l'un des leaders du secteur. Un secteur qui a pourtant vocation à croître dans les années à venir, Thomas Giraudeau.
Les EHPAD comptent aujourd'hui plus de 600 000 résidents. La moitié sont dans des établissements privés, dont les finances se portent bien. Le plus présent en France, Korian, a augmenté son chiffre d'affaires de 12% au premier semestre l'an dernier. Même tendance, plus 9% chez Orpea, son principal concurrent. Orpea, dont l'action a dévissé de 30% à la Bourse de Paris depuis la publication des premiers extraits du livre enquête. Celle de Korian a aussi chuté. Mais l'avenir de ces deux géants et de leurs 90 000 salariés n'est pas menacé selon des analystes financiers. Ils rappellent que des affaires de mauvais traitement dans des EHPAD ont déjà été relayées par le passé, mais qu'elles n'ont jamais durablement affecté leurs bénéfices. Avec le vieillissement de la population, Korian, Orpea et les autres gestionnaires publics et privés d'EHPAD vont aussi accueillir davantage de résidents, 100 000 de plus d'ici 2030, selon le ministère de la Santé, ce qui suppose la construction d'environ un millier de nouveaux établissements.
Les explications de Thomas Giraudeau.
France Inter, 7h33, le nombre d'hospitalisations pour Covid, Alexis, dépasse désormais les 30 000 en France.
Et sous l'effet d'Omicron, ce n'était plus arrivé depuis la fin 2020, mais on parle là des hospitalisations globales. Car en réanimation, la légère baisse se poursuit. 3740 patients sont en soins critiques. Chez nos voisins, les Pays-Bas rouvrent dès aujourd'hui bars, restaurants, théâtres, cinémas et musées. Même si là-bas aussi les contaminations sont toujours très élevées. Clairement, nous prenons un risque, reconnaît d'ailleurs le Premier ministre Marc Rutte. Pendant ce temps, l'Allemagne avance, elle, très lentement vers la vaccination obligatoire. Un premier débat est prévu aujourd'hui au Parlement, où le sujet ne fait pas l'unanimité. Comme d'ailleurs au sein de la population allemande, les opposants multiplient les rassemblements ces derniers jours. À Berlin, Ludovic Piétenu.
Le nouveau chancelier Scholz ne veut pas brusquer les débats, mais comme le dit l'une des députées de son camp au SPD, Nezahat Baradari, par ailleurs pédiatre, la solidarité doit jouer, c'est maintenant inévitable, tout le monde doit être vacciné.
Nous avons vraiment misé pendant 2 ans sur le volontariat, mais nous ne pouvons plus imposer cela à notre système et à nos jeunes. Notre économie s'effondre, nous ne pouvons plus continuer à injecter de l'argent dans le système.
Au sein de la coalition, on sent beaucoup d'inconfort, moins parmi le SPD et les Verts, mais davantage chez les libéraux du FDP. Au nom de son groupe, Andrew Ullmann, député et médecin, va faire une offre de compromis.
Chaque adulte non vacciné reçoit un rendez-vous obligatoire. On propose d'abord une obligation d'information. Si cette action ne comble pas nos lacunes en matière de vaccination, la prochaine étape sera de la rendre obligatoire.
Il n'y a qu'un seul groupe parlementaire qui s'oppose totalement au projet, l'extrême droite, la députée AFD Christina Baum.
Pour moi, c'est inimaginable qu'un État soit maître du corps de ses citoyens. C'est vraiment une ligne rouge qui a été franchie.
Cette députée, par ailleurs dentiste, n'est pas vaccinée et se pose la question de ce qu'elle va faire après le 15 mars. Les personnels de santé sont le premier groupe pour qui la vaccination va devenir obligatoire. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Ils dénoncent un saccage d'EDF. Les 4 principaux syndicats de l'entreprise appellent les salariés à la grève aujourd'hui contre les exigences du gouvernement face à la flambée des prix de l'énergie et pour contenir la facture des consommateurs. Bercy veut contraindre EDF à vendre plus d'électricité à bas coût à ses concurrents. Ça représente 8 milliards d'euros de pertes pour le groupe. Assez rare pour être souligné, syndicats, direction et actionnaires d'EDF sont à l'unisson contre cette décision. Le Parti socialiste, lui, ne l'est pas à l'unisson. Reconnaître ou pas le verdict de la primaire populaire. À la veille du début du vote, le PS n'en finit pas de se diviser sur la question. Anne Hidalgo refuse de participer. Mais le Canard enchaîné révèle ce matin que les militants d'au moins une section locale ont été incités à s'inscrire à la primaire populaire. Et parallèlement, Antoine Gignot, plusieurs responsables du PS affichent désormais ouvertement leur soutien à ce mouvement citoyen.
400 000 personnes qui s'apprêtent à voter, explique Corinne Narasiguin, la numéro 2 du PS. C'est la plus grosse expression citoyenne de cette campagne, impossible de l'ignorer. Discours repris par les proches d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui évoque une nécessité probable d'organiser des débats, tout en précisant qu'ils soutiennent Anne Hidalgo. En réalité, la maire de Paris est déjà sur la sellette, souffle un cadre du parti, pour essayer de conserver des sièges aux législatives. Beaucoup d'élus sont prêts à changer de cheval, dit-il. Ils pourraient soutenir Christiane Taubira. La brèche existe, constate un ancien socialiste proche de l'ex-ministre de la Justice. À un moment donné, le torrent va s'y engouffrer. Ajoutez à l'équation une prise de parole attendue de François Hollande dans les prochains jours, les sondages qui restent au plus bas. Anne Hidalgo risque d'essuyer une tempête, mais confie un membre du bureau national du PS, bon courage à ceux qui voudront la débrancher. Elle est faite en titane, insubmersible. Je leur souhaite bien du plaisir.
Antoine Gignot, s'apprêtait-il à passer à l'acte? Un trentenaire soupçonné d'être un militant d'ultra-droite comparé à partir d'aujourd'hui devant la justice pour entreprise terroriste individuelle. Avant son arrestation en mai 2020 à Limoges, cet ancien militaire avait mené des recherches et publié des messages très inquiétants sur les réseaux sociaux. Ariane Grissel.
Le trentenaire est soupçonné d'avoir diffusé sur Internet des messages faisant l'apologie du nazisme tout en menant des recherches sur des lieux où se rassemblent les personnes de confession juive, près de chez lui à Limoges, mais aussi ailleurs en France. D'autant plus inquiétant que l'homme a été repéré comme étant un amateur d'armes. Quand il perquisitionne son domicile en mai 2020, les enquêteurs découvrent 3 engins pyrotechniques sur lesquels sont collés des boulons, un fusil de la Seconde Guerre mondiale et des munitions, des t-shirts et autocollants du groupe d'ultra-droite Génération Identitaire. Dissous l'an dernier, sont également découverts sur place. Pour l'accusation, l'homme a progressivement nourri un projet criminel et s'est donné les moyens de parvenir à ses fins à partir de 2018, année où il achète un pistolet automatique et un revolver et s'entraîne au maniement des armes. L'année suivante, en 2019, le suprémaciste australien blanc Brenton Tarrant fait 51 morts dans des mosquées de Nouvelle-Zélande, un geste pour lequel le prévenu n'a jamais depuis caché sa grande admiration.
La maltraitance animale au cœur d'un procès à Moulins dans l'Allier. 3 éleveurs de porcs sont jugés aujourd'hui pour mauvais traitement. C'est l'association L214 qui a porté plainte contre ses fournisseurs du groupe Erta. Dans une vidéo tournée dans leur élevage en 2020, on voyait les porcelets entassés les uns sur les autres, certains avec la queue coupée côtoyant des cadavres. À Paris, nouveau bras de fer autour des consommateurs de crack. La préfecture de police veut déplacer ceux qui sont regroupés porte de la Villette dans le nord-est de la capitale vers une friche friche industrielle du 12e arrondissement. Mais la mairie s'y oppose. C'est un simple déplacement du problème, selon le premier adjoint Emmanuel Grégoire. Son nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes, mais elle était une figure de la lutte pour le droit à l'IVG. On a appris hier la mort de Marie-Claire Chevalier à 66 ans. C'est elle que Gisèle Halimi avait défendue lors du retentissant procès de Bobigny en 72 pour avortement illégal. Procès gagné à l'époque par la célèbre avocate et qui avait ensuite mené jusqu'à la loi Veil. Et pour se rendre compte du chemin parcouru depuis, il faut réécouter Marie-Claire Chevalier raconter sa décision d'avorter clandestinement après un viol.
C'était même pas mon petit ami, puis vous savez, dans les conditions où ça s'est passé, il m'a forcé quand même à lui céder, et puis m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui.
Est-ce garçon, vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter?
Ah oui, je lui en ai parlé, et il a pris peur, et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé.
Vous avez parlé à votre mère?
Oui. Et j'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou, et puis j'avais pas de situation, je voulais quitter l'école... J'étais pas préparée à avoir un enfant, alors j'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter.
Marie-Claire Chevalier, interrogée par l'ORTF en octobre 72.
Les espoirs d'Alizé Cornet, Alexis, vite balayés cette nuit à l'Open de tennis d'Australie.
La Française voulait décrocher pour la première fois sa place en demi-finale d'un grand chelem. C'est raté, elle s'est inclinée en 2-7, 7-5, 6-1 face à l'américaine Danielle Collins. Il faut dire qu'à 32 ans, Alizé Cornet n'était jamais allée jusque-là dans un tel tournoi.
Ça va être paradoxal, mais il me manque un peu d'expérience à ce niveau-là de la compétition. Ce que j'en retire, c'est que je suis capable de le faire. Je suis capable d'aller en quart de finale. Je suis capable de battre des joueuses très fortes, d'affilée. Pas comme ça, une fois, et puis après, il n'y a pas de match backup. Que mentalement, je tenais la route. Physiquement, je me suis surprise aussi. Donc, c'est quand même des indicateurs qui sont hyper précieux pour la suite de la saison. Et après, ce qui me manque, voilà, c'est d'en jouer d'autres. C'est pas mon meilleur match, mais c'est peut-être le match sur lequel je vais apprendre le plus de choses en termes de marge de progression.
Alizé Cornet, pour qui l'aventure australienne vient donc de s'achever en quart de finale à Melbourne.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.